chacune de nos expériences est co-créée par notre qualité de présence. C'est-à-dire que chaque instant qui surgit, chaque sensation, chaque perception, chaque ressenti émotionnel, chaque pensée est en tout cas en partie, et parfois entièrement, influencée, nourrie, alimentée, agrémentée par la qualité de présence dans laquelle cette expérience se contient. Donc la manière dont on est avec l'expérience, c'est super important. Parce que on a tous, à chacun chacune, une expérience qui surgit d'instant en instant. Et puis c'est pas que cette expérience est inéluctable, ou qu'elle va nécessairement dans un sens ou dans un autre. Elle est à chaque instant co-conditionnée par la manière dont on est avec cette expérience. C'est une manière peut-être un peu différente de répéter ce qui a déjà été dit plus tôt par Sophie et Monica. Et en fait, quand le Bouddha parle des quatre nobles vérités, qui est de reconnaître ce qui surgit dans l'instant, la souffrance, de reconnaître le fait que il y a une possibilité d'allègement, de repos, de liberté de cette tension, et qu'il y a un chemin vers cela. Ben, une des manières dont il l'a parlé, et une des manières dont on peut comprendre ces quatre vérités, c'est vraiment à travers cette compréhension de la perception. Il y a une compréhension de la manière dont on perçoit, dont on fait l'expérience intérieurement, d'une sensation, d'une émotion, d'une pensée, d'un schéma de projection, de toute une historique d'attachement relationnel, une perspective, une vue sur le monde. Tout ça est contenu par cette conscience, tout ça surgit au sein de la conscience. Et donc la qualité de cette conscience, la qualité de la présence, va nécessairement influencer ce qui surgit en son sein. Donc le principe général de ce conditionnement, de cette manière dont l'expérience surgit d'instant en instant, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que ce qui surgit dépend, en tout cas en partie, de la manière dont on est avec, dépend en fait de beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, une des conditions qui mène à ce qu'on vive une expérience d'une manière particulière, c'est la qualité de perception, la qualité de présence qu'on a à chaque instant. Donc c'est un peu le principe de base que je voudrais pouvoir élaborer, partager, différencier un petit peu dans le courant de cet exposé, en allant du chaos au nirvana. On vous a promis le nirvana, donc maintenant on y va. Vous êtes prêts ? Mais tout ce chaos de ce matin, voilà, peut-être les autres jours, les émotions, les sensations. Quand même, le Bouddha, il a parlé du nirvana, alors. Et en fait, je voudrais pouvoir élaborer deux dynamiques dans cette interdépendance, dans ce qui conditionne l'expérience qu'on vit à chaque instant. Une, c'est effectivement cette dynamique immédiate, momentanée. Peut-être qu'on a déjà fait l'expérience dans la méditation où on s'assoit, où on marche, puis on a une pensée d'un truc. Ah, oh, mais j'étais tellement bête. Et puis tout d'un coup, paf, on prend conscience. On dit, non mais attends, je suis en train de faire quoi là? Je m'auto-flagelle, je me crée encore plus un enfer que ça l'était déjà, etc. Et puis peut-être qu'on arrive à faire une pause. Comme Sophie nous l'a indiqué hier, on arrive à prendre conscience de cette aversion, de cette auto-flagellation, et puis peut-être de relâcher, de créer un peu plus d'espace. Dire, attends, non, mais là, ça fait mal. En fait, je regrette ce moment. Et on n'en rajoute pas une couche. Donc, dans l'instant, on a vraiment cette opportunité de transformer l'expérience de qui surgit grâce à la manière dont on est avec. Donc, ça, c'est vraiment un reconditionnement momentané. Alors, des fois, c'est pas momentané, je vous l'accorde. Des fois, ça prend des minutes, des heures, des années. Même moi, j'ai encore des schémas encore en train de. Je rigole. Il y a ces schémas momentanés, mais en fait, on fait aussi tous et toutes partie d'une chaîne interdépendante qui est beaucoup plus large que juste cette méditation, cette retraite, ces dernières années. En fait, on fait partie d'un processus de cause à effet et qu'on existe en tant qu'humain avec une qualité de perception aujourd'hui grâce ou à cause de, des fois, on n'est pas si heureux, de 3,5 milliards d'années d'évolution de la vie qui a surgi et qui est devenue de plus en plus complexe pour qu'on en arrive à notre qualité d'existence aujourd'hui. Donc ce sont les deux éléments que je voudrais pouvoir aborder très brièvement, qui peut-être apportent un contexte qui permette une certaine compréhension pour savoir, pour mieux comprendre le jeu, l'objectif et la manière dont on peut s'atteler à notre expérience de la méditation. Parce que savoir d'où on vient à travers ce processus évolutionnaire, ben, ça nous permet peut-être de comprendre la force de certains schémas. Et puis bien sûr, de s'en libérer. Parce qu'on est quand même là pour ça. De pouvoir avoir un peu plus d'espace, un peu plus de liberté, de joie de vivre. Donc, de pouvoir prendre conscience et de mieux cerner ce qu'il y a haut pour augmenter notre probabilité d'atteindre le nirvana. Et c'est en fait toujours un jeu de probabilité. Le nirvana n'est pas une expérience qu'on peut fabriquer, bien au contraire justement, mais c'est une expérience où on peut de plus en plus favoriser certaines conditions dans notre expérience pour que ce type de légèreté, ce type d'ouverture, ce type de vision d'une nature très profonde de l'existence, de l'expérience puisse émerger. Donc quand on parle de qualité de présence, de quoi est-ce qu'on parle ? Mais soyons présents. Soyez présent. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en tout cas qu'on va prendre conscience de notre corps, à savoir de ce qui se passe ici et maintenant au niveau corporel. C'est pour ça qu'on prend pas mal de temps à s'ajuster dans la posture, on change de posture. Donc il y a un aspect biologique, il y a un aspect physiologique. C'est une des variables. Il y a des aspects affectifs. Qualité de présence, si on est en colère ou si on est très anxieux, puis au contraire, si on est totalement exalté, ça va influencer une sensation particulière qui surgit dans l'instant. Même chose au niveau de la cognition, même chose au niveau des dynamiques relationnelles. La manière dont on est ensemble, si on est ami ou si on est ennemi, si on se fait confiance ou si on ne se fait pas confiance. Ça va influencer sur la qualité de présence qu'on a par rapport à notre expérience personnelle. Et finalement, le contexte spirituel, le contexte philosophique dans lequel la culture, si vous voulez, la culture de la pratique, le monde culturel, toutes les croyances, les possibilités auxquelles on s'ouvre, influencent aussi, créer ce contexte qui vont contribuer à notre qualité de présence. Alors en une phrase, je dirais que la qualité de présence, elle contient, elle connaît et elle conditionne en partie l'expérience de chaque instant. Donc notre qualité de présence, elle contient, elle connaît et elle conditionne, c'est-à-dire qu'elle elle influe sur l'expérience qui surgit. Et ça nous permet de savoir ce qui se passe dans notre expérience. Heureusement, il faut aller dans la méditation et des fois on n'a aucune idée de savoir ce qui nous arrive. Peut-être dans la vie quotidienne, ça vous est déjà arrivé? Vous marchez là, puis vous n'avez aucune idée de ce qui se passe intérieurement. J'ai aucune idée, mais je sais pas. Ça n'arrive qu'à moi. Donc cette qualité de conscience, elle nous permet de savoir ce qui se passe dans notre expérience, les sensations, les pensées, les émotions. Et de plus en plus, au fur et à mesure de l'entraînement, plus on arrive à être intime, être au clair par rapport à ce qui surgit. Donc ça, c'est vraiment cette qualité de sati, cette qualité de clarté. Et puis deuxièmement, ça, c'est la qualité de présence influence ce qui se passe. Donc il y a une qualité de présence qui est là, ici et maintenant par rapport à notre expérience. Et puis après, il y a la direction. Parce qu'en fait, il y a toujours une direction. Si on imagine la méditation d'être comme d'être sur un bateau, le bateau, il n'est jamais immobile. Et en fonction des courants, en fonction du vent, en fonction du poids, etc., il est toujours en train d'aller à quelque part. Et nous, on est toujours en train d'aller à quelque part. Et notre qualité de présence influe sur cette direction. Donc l'expérience de l'instant est co-créée par notre qualité de présence. D'accord ? Ça, c'est vraiment la phrase de base. Et en fait, de la même manière que ça se déroule au niveau de la pratique, ou au début de la pratique, on a déjà de la peine à savoir ce qui se passe dans la pratique, au tout départ. On peut passer des heures et des heures juste à être là sans être vraiment conscient des émotions, des sensations. Donc très peu de conscience. Et puis après, on prend conscience de nos réflexes. On prend conscience de nos habitudes, des schémas qui surgissent. Mais ce n'est pas qu'on arrive forcément à avoir beaucoup d'influence sur ces schémas. Donc déjà, d'abord, on ne comprend rien. Après, on voit un petit peu ce qui se passe. Et puis après, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on aura développé certaines qualités. On a déjà décrit, Sophie a parlé de la bienveillance ce matin, qualité de savoir ce qui surgit dans l'expérience. Et ben, de plus en plus, on peut être plus habile avec notre expérience. On peut savoir comment mieux être avec l'expérience, au-delà de nos préférences, pour pouvoir se reconditionner, pour pouvoir façonner de nouvelles possibilités. Pour ouvrir plus de liberté. Donc en fait, on pourrait dire que le schéma de méditation passe à un schéma de réflexe à la réflexivité sur un spectre. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le réflexe quand on n'a pas de conscience, on est constamment dans la réactivité immédiate de ceci, de cela, on a très peu d'espace. Il y a quelque chose qui se passe et puis boum, on a notre schéma qui s'enclenche. Et au fur et à mesure du temps, on arrive à avoir de l'espace avec l'expérience. À l'expérience, et on a cet espace qui se crée. Et tout cet espace, c'est le temps qu'on a en plus pour pouvoir évaluer l'habilité ou la malhabilité de notre schéma pour répondre de manière le plus adaptée possible. Et donc, en fait, on devient de plus en plus intelligent, on devient de plus en plus sensible, on devient de plus en plus capable à cerner la complexité de chacune des expériences pour savoir à chaque instant comment répondre au mieux. Et ça, c'est vraiment un travail extrêmement subtil. Mais on a de la chance. On a beaucoup de chance. Parce qu'en fait, ce parcours de discerner de manière de plus en plus sensible et de plus en plus complexe et de plus en plus précise ce qui se passe dans l'instant, c'est en fait un schéma qui a surgi déjà au début de la Terre et plus de 4 milliards d'années. Et au début de la première forme de vie, il y a 3,5 milliards d'années avec les premières cellules, les premières bactéries. Vous êtes prêts pour ce voyage ? Donc, une des théories principales en sciences biologiques aujourd'hui, qui décrit l'émergence de la vie, comment a commencé la vie, en gros, c'est encore un grand mystère. Ce qui est quelque chose d'assez fascinant d'un point de vue spirituel. C'est qu'on n'arrive toujours pas vraiment à cerner qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que le chi, le prana? Qu'est-ce que. Cette vibration qui nous habite. Donc ça, je pense que c'est important. Et en même temps, il y a une théorie qui apporte une possibilité de compréhension. Qui est qu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui interagissent. Et ces éléments qui interagissent commencent à former un tout. Commence à former une entité. Théorie de la symbiose, de l'endosymbiose. Et au travers de ces interactions, les interactions deviennent tellement intenses que entre le dynamisme des interactions de toutes ces différentes parties, de tous ces différents atomes, ces différents sous-atomes, eh ben, il commence à émaner un certain mouvement, une certaine vie. Encore aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à la définir, mais je pense que le dynamique du mouvement ou de la vie ou de l'intelligence, quelque chose de cet ordre-là, peut être adapté. Et en fait, il y a 3,5 milliards d'années, il y avait donc ces bactéries, et ces bactéries, elles sont devenues de plus en plus intelligentes à interagir entre elles. Et plus elles interagissaient entre elles, plus du coup elles ont commencé à former des organismes multicellulaires. De la même manière que ces atomes et ces interactions soi-disant inorganiques ont formé la vie, cette vie commence à interagir ensemble et ces interactions permettent à une forme plus élaborée, plus complexe de vie. Et en fait, cette vie, elle a un mouvement, elle a une direction, elle a une orientation. Elle se déplace pas par hasard. On sait par exemple, vous mettez une bactérie dans un petri dish. Comment tu dis ? C'est
une
boîte de pétri. Bon, vous voyez, en fonction des différents gaz, en fonction des différents ingrédients, eh ben, elle va réagir différemment et elles vont toutes réagir de manière similaire. Elles ont toutes certaines préférences ou certains réflexes qui vont influencer leur comportement. Et donc, en fait, elles ont un certain mouvement et elles ont un mouvement qui est un mouvement d'adaptation. Ça, c'est un des principes globaux aussi de la vie. Pour augmenter leur capacité de survie. Donc en fait, la vie est là pour devenir encore plus vie, pour devenir encore plus présente, encore plus ici. Et au fur et à mesure du temps, il y a environ 500 millions d'années, la révolution cambrienne, cette vie, eh ben, elle est devenue tellement complexe qu'elle a nécessité d'avoir un organe central de contrôle. Parce qu'il y avait tellement de cellules dans tous les sens qu'il fallait avoir une intelligence centralisée pour mieux diriger les mouvements, pour mieux organiser cette vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Le système nerveux, il a surgi. On a commencé à avoir des yeux. On pouvait voir dans l'environnement. On a commencé à avoir des oreilles. On peut entendre les sons. Parce que quand on peut entendre les sons qui sont plus loin, et ben du coup, ça augmente notre capacité à être attentif au danger, ou au contraire, si on a des yeux, on peut voir les framboises de l'autre côté du parc. Et on peut courir. C'est peut-être même encore plus utile que le nez, encore quoi que. Il faudrait que les framboises soient pétillantes de rouge pour les voir. Mieux qu'on les sentait dans le temps. Mais tout ça pour dire que, en fait, nos sens, nos sens font partie de ce mouvement font partie de cet encouragement à la vie et à être encore en plus vie. Et donc quand on médite, quand on écoute les sons, quand on est conscient de, du contact avec la peau, quand on est en train de manger, ça, ce sont des expériences en termes organiques, en termes corporels, en termes biologiques, qui sont d'une richesse incroyable par rapport à tout ce mouvement évolutionnaire où, jusqu'à 3 milliards d'années précédemment, c'était pas disponible. Et ce système nerveux, il a évolué, il est devenu de plus en plus complexe. Et on a commencé avec des états de... On a développé des stratégies pour se libérer des menaces. Stratégies, par exemple, d'immobilité. Vous savez quoi un peu ça a l'air, les stratégies d'immobilité? Si vous imaginez un lézard sur la route, puis vous marchez, puis vous voyez le lézard, il s'arrête. Et puis il est tellement beau, il a tellement de couleurs que bien sûr que vous le voyez, mais lui, parce que lui, il s'arrête, ben, il croit que vous ne l'avez pas vu. Et du coup, ça augmente sa chance de survie parce qu'il se dit « Ah, il ne m'a pas vu, si je ne bouge pas, je suis comme mort. » Donc du coup, je vais m'en sortir. Et donc ça, c'est un état qui nous a, qui a augmenté notre capacité de survie. Et même chose pour la fuite et la lutte. Ces comportements du système nerveux ancien qui en fait nous ont augmenté notre chance de survie parce qu'on arrive à se disperser de la menace. Une gazelle qui arrive à courir quand elle voit un lion, c'est beaucoup plus efficace d'essayer de s'en aller. Alors, la plupart du temps, elle va réussir à s'en aller. Que si elle était là, elle faisait comme si elle était morte. Ce qu'elle fait aussi, quand le lion vraiment l'attrape. Pour pouvoir survivre. Et en fait, dans la méditation, ces états d'immobilité, où on sent qu'on passe dans une zone où on arrive plus. C'est comme si on n'arrivait plus à bouger. On se sent mais complètement bloqué. Ou à d'autres moments, on sent on a envie de s'en aller. Alors, c'est quelle heure? Attends, il y a encore combien de minutes? Oh, après la retraite, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vois des sourires, donc peut-être qu'il y a des pensées de cet endroit-là. Je serais très surpris si ça ne surgit pas. Et au contraire, des fois, on est plus dans la lutte. Non, mais franchement, ces enseignants, de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oh, puis, tu as vu la tête des gens ici. Franchement, je ferais mieux rentrer chez moi. Oh là là. Oh, puis, la nourriture, je ne peux plus. Non, mais franchement, c'est trop. Puis, de toute façon, tout est nul ici. Pourquoi je suis venu? Hein? On a ces frustrations, on a cette colère, on a cette réaction de lutte. Et en fait, derrière cette fuite, derrière cette lutte, derrière cette immobilité, eh ben souvent, il y a un besoin. Souvent, il y a une émotion. Souvent, il y a quelque chose qui nous est cher, dont on se protège. Dans le courant de notre vie, développement mental, des années qu'on a vécues sur cette terre, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Eh bien, on a développé des schémas de protection pour pouvoir satisfaire ces besoins, pour pouvoir protéger la vulnérabilité de certains de nos besoins. Et dans la méditation, ils vont surgir ces états du système nerveux qui nous habitent depuis des centaines de millions d'années. Eh bien, on les a encore aujourd'hui, et dans la méditation, ils surgissent. Donc il ne s'agit pas d'être contre ce schéma de lutte, de fuite, d'immobilité. Ça fait 500 millions d'années qu'il fait partie de notre héritage biologique. Et aujourd'hui, en fait, on a l'occasion, par le fait qu'on n'est pas dans un environnement menaçant, en tout cas la plupart du temps. Je sais que j'ai une crête et tout, mais quand même. Eh bien, ça nous permet, quand on fait face à ces schémas de fuite ou de lutte, de dire, non, mais attends, en fait, dans l'environnement, j'ai pas besoin forcément, il n'y a pas quelque chose de spécifique auquel je dois m'atteler. Et je peux juste prendre le temps de ressentir cette colère, ou peut-être ressentir cette anxiété, ou au contraire, ressentir ce moment où je sens que je suis complètement bloqué. et se donner juste quelques temps, quelques secondes, quelques minutes pour être avec ça sans devoir réagir d'une manière particulière. Donc, quand on parle de traumatisme, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup dans le domaine clinique. Eh bien, une des manières de le comprendre, c'est que quand on fait face à un événement difficile de la vie, et peut-être qu'on a tous fait face à des événements difficiles de la vie, eh bien, d'une certaine manière, des fois, ça se bloque dans le système nerveux. C'est-à-dire qu'on est tellement submergé par l'intensité d'un événement qu'on a vécu, que du coup, eh bien, notre corps, pour se protéger, il se met dans une zone d'immobilité. Et dans l'immobilité, en fait, il contient du coup toute la charge du système sympathique qui va rester dans le système nerveux, bloqué quelque part, jusqu'au moment où il y a suffisamment de calme et suffisamment de disponibilité pour ce flux de vie qui a été bloqué et contracté à l'intérieur de se réouvrir. Donc quand on parle des quatre nobles vérités, le Bouddha parle de ce schéma de souffrance vers une liberté et un chemin. Et bien en fait, le fait de pouvoir prendre conscience de ces tensions, de ces schémas-là, et de voir la souffrance que ça engendre, et bien, au travers de la méditation, si on arrive à être présent à l'expérience, et que on s'oriente vers l'expérience de manière à ce qu'on puisse avoir plus de compréhension, plus d'acceptation, plus de bienveillance, et qu'on recherche cette fin de la souffrance. Parce que c'est ça, fondamentalement, la sagesse des quatre vérités, c'est qu'on n'est pas juste avec l'expérience telle qu'elle est, mais on cherche, en fait, comment est-ce que je... Où est la liberté quand je vis ça? Donc en particulier, dans ces moments d'immobilité où on se sent contracté, on se sent bloqué, on se sent peut-être désespéré, hein, qui est un des symptômes émotionnels de ce vécu d'immobilité, et ben, en accueillant, finalement on arrive à rencontrer ce désespoir, on arrive à rencontrer cette immense tragédie qu'on vit à l'intérieur d'une manière un peu différente, qui fait qu'on va pouvoir transformer cette expérience en une expérience de plus en plus ouverte, de plus en plus libre. Donc au moment où on ressent ces schémas d'immobilité, de fuite, de lutte, d'agir grâce à cette qualité du sati sampajanya. Sampajanya, je ne suis pas sûr qu'on l'ait mentionné jusqu'à présent, mais cette capacité de compréhension claire de l'expérience. Donc sati, c'est vraiment le fait qu'on sache ce qui se passe. Et sampajanya, c'est on sait une manière de le comprendre, c'est qu'on a les quatre nobles vérités au moment où on fait face à cette expérience. C'est-à-dire qu'on recherche la porte de sortie. Pas comme une manière d'éviter ce qui se passe, mais de se dire, mais en fait, là, je suis dans une énorme détresse. Et là, la liberté, elle est où, là? Le fait d'avoir, de se rappeler de cette orientation, ça c'est le sampajanya, c'est un terme vraiment essentiel par rapport à la réalisation des quatre nobles vérités vers plus en plus de liberté. Donc la première étape, parce que le système nerveux il a certaines habitudes. Comme j'ai dit, au fur et à mesure des millions d'années, on a développé ses compétences de survie, d'immobilité, de fuite, de lutte. Eh ben, l'état du système nerveux suivant est cet état. C'est ce qu'ils appellent le système d'orientation. Après ces trois états de menace, on a un état d'orientation. Et cette orientation, c'est tout simplement sati. C'est la version neurobio du Bouddha. Le Bouddha, il le savait déjà bien avant. Donc cette capacité d'être dans l'instant, en fait, on régule notre attention, on arrive à adapter la qualité de présence qu'on a dans l'instant, on se réoriente, on se dit, non mais attends, là je suis dans une colère, j'en veux à tout, je suis prêt à détruire toutes les chaises dans le hall de méditation, non mais attends, je prends juste une petite pause. Moi, je l'ai eu pour de vrai, cette pensée. Hein. Je me rappelle dans une retraite. Et puis j'ai cassé des raquettes de tennis quand j'étais jeune. Donc ça pouvait se faire. Hein. Mais bon. Heureusement, il y avait un peu de sapi. J'étais pas complètement submergé dans un schéma de compulsion. Et du coup, j'ai pu rediriger mon attention. J'ai pu rediriger mon attention à plutôt que cette obsession à vouloir casser toutes les chaises. Mais comment est-ce que je me libère de ça, enfin ? C'est quoi ? Comment est-ce que je peux être avec ce qui se passe ici afin de ne plus en être la victime et d'en souffrir ? Donc on utilise notre attention de manière stratégique. Et la mesure dans laquelle on arrive à avoir une stabilité d'attention dans l'instant, c'est ce qui va nous permettre de revenir à cet instant avec cette sampajanya, avec cette compréhension claire de l'expérience, avec cette orientation vers la liberté. Il s'agit de prendre conscience de ce qui surgit avec une orientation de mais comment est-ce que je suis plus, comment est-ce que je peux devenir plus libre là maintenant. Donc, deuxième variante de la phrase que j'ai mentionnée tout au début, l'expérience de l'instant est co-créée par notre qualité de présence. Cette qualité de présence est influencée par notre stabilité attentionnelle. C'est-à-dire que la stabilité de l'attention qu'on a dans l'instant influence la manière dont on est avec l'expérience, notre capacité de nous rappeler. Hein. Monica, elle a dit Sati, c'est cette capacité de se rappeler, se souvenir. On se souvient que, en fait, on n'est pas juste ici pour le but d'être ici, on est ici pour se libérer de la souffrance. Donc c'est de là qu'on passe de la transition de la souffrance à la conscience. Et puis c'est sûr que quand on est conscient de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus. Mais on est dans un cheminement où on est de plus en plus conscient, et donc de moins en moins souffrant. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça continue. C'est qu'on va plus loin que juste la conscience de ce qui surgit ici et maintenant. On se rappelle de ce cheminement vers la liberté, on se rappelle de cette orientation, de ce but qu'on manipule avec doigté. Au fur et à mesure de notre évolution, il y a environ 200 millions d'années, on a développé un nouveau système au niveau du système nerveux qui s'appelle le système social, le système d'engagement social. On est parti de l'orientation à ce qui se passe ici et maintenant, à une manière à rentrer en contact avec d'autres êtres. C'est là que toutes les espèces sociales ont commencé à émerger. Les chimpanzés, les humains,